de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À travers l'art, l'homme exprime son espoir, l'art comme prière. C'était à l'occasion d'une rétrospective Tarkovski au Centre Georges Pompidou à Paris. Des extraits de films, des sons, des musiques, des paroles, des lectures d'inédits, le son de la terre, l'eau et le cosmos. Voici un atelier de création radiophonique consacré au metteur en scène d'Andrei Roubliev. C'était le 22 décembre 2002 sur France Culture.
Des algues ondoyantes, une feuille morte à la dérive. Ce soir, l'atelier de création radiophonique propose, dans le cadre de notre série documentaire, Andrei Tarkovski ou le son de la terre, par Charles de Brandt et Gilles Mardi-Rossian. Une émission dans le cadre du temps fort que France Culture consacre à ce cinéaste. Focus donc sur un cinéaste qui savait l'art et la manière de sculpter dans le temps et qui a poussé cet art jusqu'à toucher du doigt l'éternité. Andrei Tarkovski ressurgit ces derniers temps, sa présence semble éternelle. Dans ses films, la vérité qu'il met à jour est celle de la vie dans toute sa splendeur poétique, une quête sacrée de liberté, d'harmonie et de justesse. Donner à entendre l'univers créé par l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle, cet univers qu'il voyait comme une image du monde qui nous entoure et du monde intérieur, le sien et celui de ses âmes sœurs qu'il espérait trouver parmi les spectateurs de ses films. Tendre vers ce qu'il pressentait d'unique dans le déroulement du temps, comme un tout en chacun et dans le monde créé. Par la radio, le son de la terre qu'il filmait, pétri d'eau, ou le son de la terre dans le cosmos, son, musique, voix, parole. Son père, le poète Arseni Tarkovski, eut cette parole énigmatique après la première de Zeralo, Le Miroir, le quatrième film de son fils. Andrei, ce ne sont pas des films que tu fais.
La création.
Atelier de création radiophonique. Andrei Tarkovski ou le son de la terre. Par Charles de Brandt et Gilles Mardi-Rossian. 5 4 3 1.
doit y avoir d'autres possibilités de travail avec le son, qui permettraient d'être plus précis, plus fidèle au monde intérieur que nous essayons de recréer à l'écran. Et pas seulement au monde intérieur de l'artiste, mais à ce qui est intérieur au monde lui-même, à ce qui lui est essentiel et qui est indépendant de nous. Andrei Tarkovsky.
Я век себе по росту подбирал, мы шли на юг, держали пыль над степью, бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усом и пророчил, и гибелью грозил мне, как монах, судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела.
Je me suis choisi un siècle à ma taille. Allant vers le midi, nos pas ont traversé la steppe. L'herbe sèche fumait. Le grillon, tout narquois, touchait de ses antennes les fers de mon cheval, prophétisait ma mort comme ferait un moine. Mon destin, je l'ai suspendu à ma selle, et je ne cesse pas d'être dans l'avenir. Comme un gosse, je me dresse sur les étriers. J'ai des ressources d'immortalité, assez pour que mon sang coule de siècle en siècle. Un bon coin de chaleur quiète, je le paierai volontiers de ma vie, si son aiguille preste et agile ne m'entraînait pas comme un fil à travers le monde.
Andrei, mon fils, ce ne sont pas des films que tu fais. Nous avons voulu donner à entendre le son de l'univers tarkovskien, le son de son âme, qui tend à ne faire plus qu'un avec la terre dans sa plénitude.
Aussitôt que l'idée du déluge se fut rassise, un lièvre s'arrêta dans les sinfons et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. Oh, les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. Arthur Rimbaud, après le déluge, illumination.
Le déluge. La prière, la toile d'araignée, la révolte ou la quête spirituelle. Tout rapproche le poète du cinéaste. Comme Rimbaud et son soudain silence, les héros des films de Tarkovsky décident, à un moment de leur vie, de se murer eux aussi dans le silence pour retrouver un sens à la parole, à l'art, à la vie.
Une toile d'araignée dont les fils brillent au soleil entre deux branches d'un noisetier comme les fissures d'une vitre brisée. L'arbuste tressaille, les gouttes de rosée s'embrasent, puis retombent en une cascade étincelante. Debout, derrière un jeune pin bien droit, Ivan regarde. Il tend l'oreille. Il scrute les sommets des arbres et attend que résonne de nouveau le mystérieux « coucou ».
La caméra monte lentement le long du jeune pin élancé. Les étagements de branches se succèdent harmonieusement, formant des verticilles. Voici la cime. La caméra s'immobilise.
Ivan se tient tout en bas, loin. Il écoute le silence de la forêt dans lequel on perçoit distinctement un étrange grincement. L'enfant jette autour de lui un regard extasié. Sa silhouette se rapproche. On a l'impression qu'il vole. Un papillon s'envole d'en bas, des mains d'Ivan, brillant sur un fond de ciel d'été éblouissant. Ivan vole. Il voit les troncs des arbres, les nuages, et loin en bas, une clairière parsemée de fleurs, la profondeur de la forêt d'où s'exhalent des brumes, sa propre ombre à la surface du pré, et sa mère qui d'en bas lui fait des signes.
La caméra se rapproche d'un arbre sec et s'arrête.
De nouveau un craquement mystérieux. Une chèvre noire mâche de l'herbe en fixant Ivan avec des yeux semblables à des groseilles à maquereaux mûrs. Ce coucou passe au-dessus de la forêt.
Maman, t'as un coucou, je passe.
Léger, vacillant et envoûtant comme un rêve.
Gleich werden wir dir was beibringen.
Wird schon, wird schon.
Kannst ein bisschen die Beine bewegen?
Ну, то есть, озарение автора было такова. Я только что кончил в ГИК. Мне показалось, что я становлюсь режиссером.
Le point de vue était le suivant. Je venais de terminer mes études. J'avais l'impression que j'étais devenu metteur en scène.
И я был совершенно свободен, когда делал этот фильм.
J'étais tout à fait libre quand j'ai commencé à faire ce film.
То есть, это было какое-то очень счастливое время.
C'était un temps très heureux.
Когда я был очень ограничен, так сказать, интеллектуально, ментально.
Où j'étais assez limité mentalement, intellectuellement.
Но был ужасно наполнен, так сказать, чувствами.
Mais j'étais rempli de sentiments.
Ivan rêve qu'il vole. Un homme au début du film, Andrei Rublev, s'envole accroché à un ballon. Mais la Terre ne vole-t-elle pas dans le cosmos ? C'est aussi l'image de l'élévation, de la vie de l'esprit, qui nous a fait voyager par le son à travers les 7 chefs-d'œuvre de Tarkovsky.
Essentielle que j'ai eue de lui, c'était celle d'un enfant perdu dans la forêt. Mmh. Naïf, jusqu'à un certain point, simple, honnête, qui se cherchait et qui cherchait des réponses à des choses plus grandes que lui, en sens que le monde qui l'entourait était évidemment comme le monde soviétique maintenant, très très complexe. Et je crois qu'il n'y avait personne avec qui il pouvait parler et qui pouvait lui donner des réponses ou des aiguillages. Sorte qu'il a parlé de lui, il a parlé de sa foi et de sa recherche, de son manque de foi et de sa recherche. J'ai eu l'impression qu'il était vraiment très angoissé, très perdu, qu'il ne voyait pas vraiment l'issue. C'est comme quelquefois on voit la lumière au bout d'un tunnel. Il était encore dans le tunnel sans vraiment voir la lumière qui pointe et vers laquelle alors on peut se diriger avec certitude. J'ai trouvé que c'était un homme attrayant dans le sens qu'il était honnête. Il ne voulait pas de compromis. Il voulait trouver ce qui est vrai.
Thank you.
Il fait nuit. Autour de la flamme qui ronfle, les voyageurs dînent en silence, sans se presser. De la rivière monte une froide odeur de vase, des poissons clapotent tout près de la berge, et le bois mort dans le feu crépite en projetant des étincelles rouges qui s'envolent avec la fumée dans le ciel clair de la nuit. Tous essaient de ne pas regarder du côté du village. Là-bas, sur la colline, des premiers feux fument déjà et une faible brise apporte jusqu'aux barques un mélange discordant et envoûtant de tintements de cloches, de sons mystérieux et incompréhensibles et parfois de bruits de voix. Tous ont follement envie de se retourner pour regarder du côté du village au point d'en avoir mal à la nuque. Le village, c'est un autre monde qui palpite à mi-voix, qui parle, babille et murmure, qui allume ces feux mystérieux dont les lumières scintillent au-dessus des hautes branches des arbres qui s'étirent dans le ciel étoilé. Des grelots tintant entre les mains d'une femme nue qui pour la énième fois fait le tour de sa maison en courant pour la protéger de toutes les maladies bénignes ou mortelles, et ses enfants tout nus qui tentent de la suivre en gloussant, sans comprendre toute la gravité de leur mission, qui crient et rient aux éclats en cet instant terriblement important, et la flamme excitante du feu à côté de la maison devant laquelle une vieille femme recouvre la jeune d'un linceul et, souriant de sa bouche édentée, la fait solennellement entrer dans la demeure, à présent protégée par ses charmes de toutes les maladies, pour une année entière. Et les feux crépitants que voit Andrei embrasent les visages souriants penchés sur les flammes oranges, autour desquels des jeunes garçons et des jeunes filles en vêtements flottants se poursuivent en poussant des cris de joie. Et incliné vers un feu, le mince bouleau nimbé de ses premières feuilles délicates, sur les branches duquel des jeunes femmes et des jeunes filles nouent des rubans de cotonnade à toute vitesse, c'est à qui ira le plus vite. Et le cavalier nu montant à cru un cheval blanc à la longue crinière et à la queue déployée, galopant vers la rivière inondée des reflets de la lune d'argent ronde qui vient de se lever au-dessus de l'autre rive, et les corps nus et vigoureux des garçons et des filles s'enfonçant jusqu'aux genoux dans l'eau qui flamboie au clair de lune, et le hennissement du cheval qui entre dans la rivière au grand galop, et les rires et les cris. Et les grands gestes des bras blancs comme la craie dans l'air sombre de la nuit, et les longues étreintes laborieuses des couples sur la terre féconde et bienfaisante qui s'étirent, entourés de gens amoureux de leurs chants labourés et plongés dans un silence solennel. Hors d'haleine, Andrei est emporté jusqu'à la rivière, où il se heurte presque à une jeune femme aux cheveux dénoués et ruisselants, debout derrière des buissons tout près de l'eau, nue. Sans crainte, elle regarde Andrei avec étonnement, avec tendresse et avec une joie inattendue, pétrifiée, les bras croisés sur sa lourde et haute poitrine. Elle regarde Andrei et le voit s'approcher, les mains tendues. Il va effleurer son visage, il va l'étreindre, tendrement, très fort. Sa bouche brûlante va trouver ses lèvres et elle va sentir le tissu grossier de sa robe. Son dos sera chatouillé par l'herbe rêche du printemps et les feuilles craquantes de l'automne dernier. Andrei la regarde. Il la voit venir à sa rencontre, impudique, les yeux écarquillés, avec le clair de lune dans ses cheveux humides. Elle va s'approcher tout près, l'enlacer, serrer contre lui son corps froid et frémissant. Elle va l'embrasser en gémissant de ses lèvres fraîches et douces et l'entraîner avec elle sur la terre bruissante qui sent la moisissure, les champignons et l'herbe nouvelle. Il reste longtemps debout, ainsi, sur le qui-vive, à se regarder et à attendre. Puis Andrei se détourne et s'en va.
Comment vous dire?
То есть до тех пор, пока будет существовать человек,
aussi longtemps que l'homme existera,
человек будет стараться, не будет стараться, будет инстинктивно стремиться к творчеству.
Il aura une tendance tout à fait instinctive vers la création.
До тех пор, пока он будет ощущать, человек будет ощущать себя человеком, он будет
aussi longtemps que l'homme se sentira
создать что-то.
Il essaiera de créer quelque chose.
Этим самым он напоминает, этим самым он просто связан каким-то образом с создателем.
C'est en cela qu'il a un lien avec son créateur en quelque sorte.
Потому что творчество, что такое творчество по существу?
La création, qu'est-ce que ça veut dire en fait la création?
Для чего существует искусство?
À quoi sert l'art?
Почему?
Pourquoi?
Хорошо это или плохо?
Est-ce bien, est-ce mal?
Конструктивно ли это? Или это абсолютно чистое искусство?
Est-ce constructif ou est-ce simplement de l'art?
Но ясно одно, что искусство – это молитва.
Mais il est clair que l'art, c'est une prière.
Это этим все сказано.
Et cela veut tout dire.
При помощи искусства человек выражает свою надежду.
À travers l'art, l'homme exprime son espoir.
И все остальное не имеет никакого значения.
Et le reste n'a aucune importance.
И все, что не выражает надежды,
et tout ce qui n'exprime pas l'espoir,
и то, что не выражает, не строится на каком-то духовном уровне,
ce qui n'a pas de fondement spirituel,
не имеет никакого отношения к искусству.
N'a aucun rapport à l'art.
Кто же его невинного оклевещет? А фарисеи эти на обман мастера, грамотные, хитроумные. Они и грамоте-то учили, чтоб с власти прийти темнотой его воспользовавшись. Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Зло везде есть. Всегда найдутся охотники продать тебя за 30 серебряников. А на мужика все новые беды сыпятся. То татары по 3 раза за осень, то голод, то мор. А он все работает, 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 несет свой крест смиренно, не отчаивается, а молчит и терпит. Только Бога молит, чтоб сил хватило. Разве не простит таким Всевышний темноты их? Сам ведь знаешь, не получается что-нибудь, или устал, намучился. И вдруг... С чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим. И словно причастился. И все легче сразу. Разве не так? Вот ты тут про Иисуса говорил. Так он, может быть, для того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить. Ведь Иисус от Бога, значит, всемогущ. И если умер на кресте, значит, и предопределено это было. И распятие, и смерть его дело руцы Божьей.
Est-ce qu'on peut considérer ce personnage comme mystique? Enfin, alors, par exemple, son médecin Schwarzenberg disait, on ne peut rien faire avec lui, il est mystique. Alors, on ne peut pas le soigner avec des médicaments normaux. Il ne peut pas prendre certains médicaments parce que là, bon, il croit en certaines choses. Alors que d'autres, les Hongrois, ont écrit sur lui. Son livre est sorti en français il y a quelques mois, ils disent au contraire que ce n'est pas un mystique.
Si vous définissez mystique comme quelqu'un qui est en face du mystère de la vie et qui ne veut pas essayer de le résoudre intellectuellement, qui veut le résoudre dans une expérience de communion, mais je ne pense pas qu'il soit, qu'il ait été un mystique dans le sens, disons, chrétien ou religieux du mot. Je crois que le monde, toute la complexité du monde était pour lui quelque chose qui ne pouvait pas être réduit à des formes rationnelles. Voilà. Je crois qu'il était à la recherche de quelque chose. Il avait un sentiment de l'au-delà, de Dieu, du mystère, mais pas d'un mystère tellement concret qu'il puisse être un visionnaire, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il ait été un chrétien dogmatique, dans le sens que si vous lui aviez posé des questions sur la Trinité, sur l'incarnation, d'un point de vue théologique, je crois que l'incarnation, le fait de la présence de Dieu, d'une façon incarnée, est certaine pour lui, mais pas sur le plan d'une théologie. Je ne pense pas qu'il aurait pu simplement dissocier un monde sans Dieu et un Dieu sans monde. Il les voyait interpénétrés. Il sentait qu'il y a un dynamisme intérieur dans le monde qui n'est pas simplement le monde qui se développe à sa façon.
Хотел мне говорить никакой России.
Je n'ai jamais voulu rien dire à aucune des Russes.
Слушай, обычно говорят так. Я хотел сказать своему народу.
On dit, je voulais dire à mon peuple.
Или всему миру.
Ou je voulais dire au monde entier.
То есть я сразу превращаюсь в пророка.
Tout de suite, j'ai vraiment l'air d'un prophète.
Я никакой не пророк.
Je suis pas du tout prophète.
Я обыкновенный человек,
je suis un homme,
которому Господь дал возможность быть поэтом.
À qui Dieu a donné la possibilité d'être poète.
То есть молиться каким-то другим способом, чем мы молимся в наших храмах.
C'est-à-dire de prier d'une autre manière que l'on prie simplement dans nos cathédrales.
Больше ничего я по этому поводу не знаю.
Je ne peux rien dire d'autre à ce point de vue.
Tu sais, à force de manifester de la pitié, nous nous vidons. Peut-être est-ce vrai finalement. La souffrance confère à toute vie un aspect lugubre et suspect. Mais je refuse d'admettre. Oui, je refuse. Ce qui ne constitue pas une nécessité pour notre existence. Cela lui est-il nuisible pour autant ? Non, ce n'est pas nuisible, non. Bien sûr que ça ne l'est pas. Tu te rappelles Tolstoï ? Ces tourments à propos de l'impossibilité d'aimer l'humanité en général. Combien de temps a passé depuis lors? Je ne sais pourquoi je n'arrive pas à faire le compte. Aide-moi. Tiens, par exemple, je t'aime. Cependant, l'amour, c'est un sentiment qu'on peut éprouver, mais jamais expliquer. On peut expliquer une idée. Mais ce qu'on aime, c'est ce qu'on risque de perdre, soi-même, une femme, la patrie. Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité, la Terre, était tout bonnement inaccessible à l'amour. Tu comprends ce dont je parle, Snout ? Nous sommes si peu nombreux. Quelques milliards tout au plus, une poignée. Mais peut-être en fait ne sommes-nous ici que pour percevoir pour la première fois l'humanité, comme un motif d'amour. Tu ne crois pas ?
expliquer soudain.
Solaris, Tarkovsky, Artemiev. Les sons de la Terre se mêlent à ceux de l'univers. Et c'est cette sorte de respiration qui vient accompagner la lecture du vent clair. Ce scénario jamais réalisé, où contrairement à Andrei Roublev, le héros s'envole réellement pour finir par se poser délicatement sur la Terre.
Il faisait sombre à l'intérieur de la tour, bien que la journée fût ensoleillée. Philippe marchait devant, entre Decker et Klaff. Le supérieur et le père Grégorius venaient ensuite. Jacob fermait la procession. L'escalier en colimaçon devenait de plus en plus raide. Des grilles métalliques se mirent à défiler. Il fit plus frais. Enfin, tous aperçurent vers l'avant une lumière vive. Sur la plateforme qui couronnait la tour, un vent froid, totalement absent en bas, soufflait avec force. Tout était calme. Il n'y avait que le vent, sifflant par moments dans les crevasses des murs. « Allons-y, » dit Klaff. Il prit Philippe par la main et le conduisit jusqu'au bord de la tour. Le vent était devenu plus fort. Il déchirait les pans des habits, tiraillait les cheveux. « Saute !» dit Klaff sans hésitation. Philippe sentit brusquement ses genoux faiblir. « Saute !» répéta Klaff. « Pense à ce que tu peux atteindre en t'élevant dans le ciel. »«
Philippe !» cria soudain le père Grégorius. « Réponds-lui ! Rappelle-toi ! Ne défie pas ton Dieu !»
« Emmenez ce talmudiste à la fin !» cria Klaff. Le supérieur s'approcha, prit le père Grégorius par le bras et le conduisit à l'autre extrémité de la plateforme. « Vous aussi, allez-vous-en » dit Decker à Klaff. « Éloignez-vous. »«
J'ai peur, » dit Philippe. Je ne suis pas fait pour cela.
Tu doutes ? Dit Decker. Dépasse-toi.
Je vais essayer, dit Philippe. Je vais essayer. Cela fait trop longtemps que j'attends. Mais que personne ne regarde. Même pas vous.
Philippe parlait avec fièvre. D'accord, dit Decker. Mais crois. Crois, et tu voleras. Il embrassa Philippe sur le front et s'éloigna. Le vent sifflait. Le père Grégorius priait à genoux. Philippe était seul. Il se força à avancer tout près du bord de la tour et regarda vers le bas. Une terre magnifique s'étendait devant lui. Les couleurs sèches des sables brûlés par le soleil alternaient avec l'argent luxuriant des bosquets d'oliviers et le bleu sombre des vallées en fleurs. L'horizon, fermé par une chaîne de montagnes rougeâtres, brillait sur la droite où elle décroissait d'un éclat bleu vif. C'était la mer. Un sentiment morbide mais doux, effrayant et attirant, s'empara de Philippe. Sa tête se mit à tourner, ses jambes faiblirent, il chancela et, perdant l'équilibre, tomba. D'un seul coup, tout disparut. Il ne restait que l'effroi animal et impersonnel de la chute. C'était tellement terrifiant que Philippe ne put se retenir et se mit à crier. En haut, on entendit son cri et tous se précipitèrent à l'extrémité de la tour, se bousculant les uns les autres. Philippe tombait comme une pierre,
le visage défiguré par la peur. Il lui semblait que sa chute durait très longtemps. Les yeux fermés, il s'attendait à chaque instant à s'écraser sur les pierres, mais le choc n'arrivait pas. Alors, surmontant sa terreur, il ouvrit les yeux et vit le ciel bleu et pur. Et en bas, la terre lointaine et tranquille. Le vent soufflait toujours, mais c'était un autre vent. C'était un vent clair qui rendait la respiration facile. Et en haut, sur la tour, tous le sentirent aussi. Seul le père Grégorius était toujours à genoux, les yeux fermés. Philippe volait. Il le comprenait, et ceux qui étaient restés sur la tour le comprenaient aussi. Il glissait avec aisance et légèreté vers le bas, vers la terre, qui s'approchait doucement, comme si elle nageait à sa rencontre. Et une joie inconnue envahit Philippe. Des larmes se mirent à couler de ses yeux. Sentant son corps de manière nouvelle, il se retourna dans l'air et vit la tour qui s'éloignait, et de minuscules silhouettes semblables à des fourmis en haut du mur. Enfin, il toucha terre sur le sommet d'une colline verdoyante, volta encore un peu et se posa précautionneusement en couchant son visage dans l'herbe. Des oiseaux chantaient non loin dans un bosquet. Il resta allongé ainsi un long moment, sans comprendre, étonné.
Régis, vous avez écrit quelques lignes sur Tarkovski. Vous avez parlé de lui comme d'un cinéaste essentiel. Donc tous ses films, ses livres, aujourd'hui, près de 15 ans après sa mort, son œuvre survit, ou combien? Mais quelles images, quelle expérience regardez-vous?
Je pense que ça fait partie de quelques créateurs qui demeure exceptionnel. Je crois qu'on n'ose pas assez le dire. Il y a dans toute création une masse de gens qui travaillent et qui créent des choses. Et il y a par siècle ou par génération, mais ça demeure extrêmement rare, des êtres d'intelligence et d'inspiration qui élèvent leur art à un niveau où il devrait toujours être. Je pense que ce qui est très pénible dans notre époque, c'est de voir de plus en plus l'art se rabaisser pour arriver à une espèce de marché de la consommation et une espèce de trafic presque du métier de l'art pour devenir quelqu'un qui se fait remarquer et qui devient une célébrité richissime. Je crois que Tarkovski, c'est juste l'inverse. Et évidemment, on ne peut pas ne pas dire que dans un siècle qui allait en sens inverse, il a représenté une recherche dans tout ce qu'il a fait de ne jamais s'éloigner de la spiritualité.
Vous êtes proche de lui quand, dans votre livre de l'Ordre des Morts, vous parlez des éléments uniques au théâtre, enfin, vous parlez de la beauté de l'éphémère. Vous mettez de côté la beauté, vous la relativisez.
C'est une question de définition. Ça dépend où on va la chercher. La beauté, il va beaucoup la chercher dans la boue. Il va la chercher à travers des souvenirs d'enfance qui ne sont pas tous décantés. Je veux dire, je pense que ce que j'ai attaqué, c'est la fausse idée du beau, le faux culte du beau, comme le faux culte de la poésie. Alors que justement, je voulais, tiens beaucoup à dire ça, que Tarkovski est le fils d'un poète et qu'il a été un poète simplement dans sa génération. Il est passé de l'écrit à l'image. Mais aussi, ses dialogues sont tout à fait remarquables du point de vue de l'écriture. En tout cas, c'est certainement une œuvre de poète qu'il a fait, mais d'une vraie poésie qui passe par une réalité avec tout ce qu'elle comporte, et que je pense que la définition de la beauté n'est pas ce que les gens croient. Enfin, les gens croient que ce qui est beau, c'est ce qui n'est pas laid. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de beauté avec de l'horreur. Et que c'est même souvent dans la descente, justement, dans les zones des marécages, qu'on rencontre la lumière.
Как твое имя, отчество и фамилия?
Меня зовут Жарыч Юрий Александрович.
Туда, Юр, смотри. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал?
La découverte d'une méthode en art est celle d'un homme qui découvre le don de la parole. On peut alors parler de la naissance d'une image, autrement dit d'une révélation. La création artistique est en fin de compte la forme même de l'existence humaine de l'artiste, son seul moyen d'expression. Andrei Tarkovsky.
Я скажу три, и руки станут неподвижны. Внимание. Смотри на руки. Один, два, три. Громко и четко. Я могу говорить. Давай.
Я могу говорить.
Jour blanc. Une pierre est couchée dans le jasmin. Sous cette pierre est un trésor. Mon père se tient dans l'allée. Blancheur, blancheur du jour. Un peuplier d'argent en fleurs. Une sans-feuille et derrière elle des roses grimpantes. Une herbe de lait. Je ne connus jamais alors un tel bonheur. Jamais un tel bonheur je ne connus alors. Revenir là-bas, c'est impossible. Et raconter, mais nul ne le peut, comme fut rempli de béatitude ce séjour du paradis.
Après Jour blanc, titre du scénario de son film autobiographique Le Miroir, Tarkovsky pensa arrêter de faire des films. Mais le flot de lettres d'encouragement qu'il reçut de spectateurs russes lui fit renoncer à cette idée. Ils venaient d'exprimer leur âme au plus près.
Лайка!
Чего?
24 mars, le plus difficile et le plus important, avoir la foi. Car si tu as la foi, tout se réalise. Mais croire, sincèrement, est terriblement difficile. Rien n'est plus difficile. Croire, sincèrement, passionnément, avec sérénité.
Là où je rejoins peut-être Tarkovski, c'est... Moi, j'ai une conception mystique du théâtre.
Joël Joanneau.
C'est-à-dire que pour moi, le seul lieu sacré, ce n'est pas l'église. C'en est un, mais je ne suis pas croyant. Mais le plateau de théâtre, pour moi, c'est une église. C'est un lieu de théâtre. Donc j'ai une conception mystique de ce qui doit se passer sur un plateau de théâtre. De même que, pourquoi ? Parce que j'ai une conception mystique du verbe. Et je le dis toujours, Dieu, pour moi, c'est une consonne avec une lettre minuscule et trois voyelles. J'ai cette conception-là de Dieu. Uniquement, c'est un mot. Et j'ai une conception mystique du verbe qui fait qu'au théâtre, le verbe est le centre, en tout cas dans le théâtre que j'essaye de pratiquer. Et j'apprends, parce que pour moi, tout est mot. J'ai l'impression que l'homme, grâce à Beckett, à tous ces gens-là que j'ai fréquentés au cours de mes voyages, que nous sommes des machines à mots et exclusivement des machines à mots. Et j'apprends dans le cahier de Tarkovski que pour lui, nous sommes des machines à images. C'est-à-dire que l'image est toujours là. Alors qu'au théâtre, l'image, je crois, est mauvaise conseillère. Enfin, pour moi, je me méfie beaucoup de l'image au théâtre. Parce que je pense que c'est le verbe et la pensée de Tarkovski qui doivent nous animer. Et simplement, la pensée d'un artiste qui croit encore que l'art peut changer, bouleverser, émouvoir, que c'est ça à voir avec le sacré. Voilà. Son cinéma pendant le miroir, c'est ça, quoi. C'est un voyage qu'on fait, je trouve, à partir de cette simple donnée qu'il donne, que c'est le seul artiste que j'ai vu pouvoir écrire ça dans un journal. Pouvoir dire, je vis des moments où ce qui est à l'intérieur de mon cerveau est exactement en phase, en fusion avec tout l'extérieur et le cosmos. On a un équivalent littéraire de ça, c'est la recherche du temps perdu. Mais le miroir, c'est ça. C'est comment, à un moment donné, ce qui se passe à l'intérieur du cerveau artistique d'un homme est en fusion avec une étoffe, un rêve, la voix d'un enfant, un rire qu'il entend au lointain. C'est ce qui fait ces œuvres. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, quand même. On n'a pas de cinéaste équivalent à Tarkovski aujourd'hui. Il faut le dire.
D'élever toujours plus haut le degré de maîtrise de mon art.
la dignité de l'artisan, le niveau de la qualité perdu par tous, parce qu'il était devenu inutile et remplacé par l'apparence, l'illusion de la qualité. Je veux maintenir le niveau de la qualité comme Atlas, qui soutenait la terre sur ses épaules. Il aurait bien pu la lâcher sous l'effet de la fatigue, mais il ne l'a pas lâchée, il a continué à la soutenir. C'est d'ailleurs le plus étonnant dans cette légende. Non pas qu'il l'ait soutenu très longtemps, mais qu'il ne l'ait pas lâché alors qu'on l'avait trompé, qu'il ait continué à tenir.
Учебная.
J'étais un grand ami de Tarkovski, même un très grand ami. Je pouvais exiger de lui ce que personne ne pouvait exiger. Tous les cinéastes avaient peur de lui, car il était comme un miracle. Mais pour moi, c'était un collègue et un très grand artiste à qui je dois beaucoup. Je dirais même plus, il fut mon maître bien que j'étais de 15 ans son aîné.
Sergueï Parajanov.
Tarkovski...
Tarkovski a emporté avec lui une formule. Mais ne pensez pas que dans ses derniers films, il ait exprimé tout ce qu'il portait en lui. Quant à la formule, elle est restée énigmatique. Les critiques cinématographiques, qui sont souvent aveugles, n'y comprendront jamais rien. Seul quelqu'un de génial, un nouveau venu dans le cinéma et possédant la même formule que Tarkovski pourra poursuivre sa réflexion. Ce n'est pas un institut, mais une personne qui doit apparaître. Une personne au niveau du talent de Tarkovski pour déchiffrer cette formule. Que cet individu soit formé par l'école du cinéma de Moscou ou par le destin, ou qu'il surgisse comme un miracle, il aura pour mission de poursuivre l'œuvre du maître. C'était un homme compliqué et mystérieux. Ne croyez pas que l'Institut vous donnera la formule, ni la possibilité de déchiffrer celle-ci. Le génie de Tarkovski consiste dans le fait qu'il n'a jamais voulu enseigner. Il ne voulait pas révéler sa réflexion. Il aurait pourtant été intéressant qu'il lègue la formule à son fils, qui est un garçon plein de talent, qui a hérité des gènes forts de son père et de son grand-père. Mais je me réjouis que Tarkovski n'ait pas enseigné à l'école de cinéma de Moscou. Ainsi, il n'y a pas de micro-Tarkovski. Ces micro-monstres que forme cette école. Quant à l'essoufflement du cinéma, c'est plutôt le monde entier qui est en train de s'essouffler. Et la Russie peut-être plus que les autres, et avec violence. La mort de Vysotsky, de Tarkovski, les départs de Loubimov, du danseur Glazounov, de Rostropovitch et Vishnevskaya, et de toute une pléiade d'autres artistes ont éparpillé les perles de la couronne. Il ne reste qu'une carcasse. Et ont créé là-bas la glasnost et la perestroïka. Quand toutes les perles de la couronne sont tombées.
Увидите, тут убьют. Потом, когда все стихнет, ползите назад, к заставе. Утром подберут.
Они нас не догонят.
Да что вы? Они ее боятся, как огня.
Кого?
Кусток означает подкрадываться во время охоты.
Кусток, ça veut dire se rapprocher très très doucement.
Furtivement.
Furtivement pendant la chasse.
Для меня это фильм.
Pour moi, ce film.
О человеке.
Ce film parle d'un homme.
Который, естественно, так сказать, терпит поражение.
Qui essuie une défaite.
Практически.
Pratiquement.
Но как идеалист.
Mais étant idéaliste.
Остается создать, так сказать, рыцарем. Во имя духовных ценностей.
Il reste une espèce de chevalier pour des raisons spirituelles.
Это что еще такое?
Свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие свободные скрылись в пещеры. И в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять?
И je vis. Quand il ouvrit le sixième sceau, survint un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme un figuier secoué par grand vent jette ses figues. Le ciel fut retiré comme un volume qu'on enroule, et toute montagne, toute île, furent enlevées de leur lieu. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants, tout esclave et tout affranchi se cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin, de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de leur colère. Et qui donc peut encore tenir debout ?»
Ressentit dans Stalker, peut-être pour la première fois, la nécessité de désigner avec précision et sans équivoque la valeur positive et centrale qui fait vivre l'homme. Tout s'épure jusqu'à ce simple élément, le seul sur lequel l'homme puisse compter dans son existence, sa capacité d'aimer. Mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit mes films ressente le besoin d'aimer, de donner cet amour et qu'il perçoive l'appel de la beauté. Andrei Tarkovsky.
Je me languis beaucoup de mon chez-moi. Je m'ennuie à mourir de Lara, d'Andriushka et de mon chien, d'Acus. Décidément, aucun russe ne peut vivre ici avec cette nostalgie typiquement russe. La douleur d'être séparé dévorera leur vie. L'amour seul est capable de résister à cette destruction universelle. L'amour et la beauté. Je crois vraiment que seul l'amour peut sauver le monde.
La nostalgie est un sentiment entier, total.
То есть, может быть, человек, который испытывает ностальгию, по существу, находясь все время на своей родине, не расставаясь со своими близкими.
On peut éprouver la nostalgie en restant dans son pays et à côté de ses proches. C'est un sentiment.
В счастливом доме,
в счастливой семье. Dans une maison heureuse avec.
Человек может страдать от ностальгии.
Malgré tout cela, l'homme peut avoir la nostalgie, peut souffrir de nostalgie.
Потому что он будет чувствовать, что его душа не может распространиться в те пределы, в которые она стремится.
Parce qu'il sentira, par exemple, que son âme est limitée et que son âme ne peut pas se propager comme il l'aurait voulu.
Madre dolorosa, madre orgogliosa, madre ispirata, madre illuminata.
То есть, по существу, этот человек страдает от того, что он, скажем, не может привести в эту Италию своих близких.
En réalité, cet homme souffre, par exemple, du simple fait qu'il ne peut pas faire venir en Italie ses proches.
Он хотел бы своему сыну показать эту красоту,
cette beauté,
вот эту Флоренцию,
cette superbe ville de Florence,
расширить его внутренний мир. Углубить его какую-то душу.
Développer son monde intérieur, creuser son âme un petit peu.
И он не может этого сделать.
Il ne peut pas le faire.
Потому что жизнь устроена идиотами.
Parce que la vie, malheureusement, est faite et régie par des idiots.
И мы,
le monde.
То есть сказать, идиотами, которые почему-то вообразили, что они, их профессия устраивать жизнь другим.
Le monde est régi par des idiots qui sont convaincus de leur mission sur Terre, c'est-à-dire organiser la vie des autres.
Bisogna tornare alle basi principali della vita, senza sporcare l'acqua. Che razza di mondo è questo? Se è un pazzo che vi dice che dovete vergognarvi. Oh madre, l'aria è quella cosa leggera che ti gira intorno alla testa e diventa più chiara quando ridi.
Ça va mal là-bas.
une semaine après la publication de mon interview, les bruits qui couraient sur mes intentions supposées se sont transformés en une version officielle des faits. C'est la raison pour laquelle on retire ma femme. En ce moment, à Rome, tous mes films passent dans une salle. On a parlé ensemble de cinéma, spectateurs italiens et américains. Et moi, j'ai éprouvé un sentiment de honte à la pensée que des gens allaient au cinéma pour voir mes films. De honte, parce que ce que j'ai fait n'est pas du cinéma et qu'il ne faut pas aller voir mes films. Ce qu'il faut, c'est les vivre avec moi. Mais qui en est capable ? Tel que c'est, j'ai honte.
Words, words, words.
Ný, svona, svona. Það er ingenting að vera rætt för. Var ekki rætt. Vert ekki rættur. Það ekki það óttast. Her hendur það ingenting. Grótindi. Allt skal bli svo bra. Elska mig.
Jó.
Lorsqu'il ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept messagers debout devant Dieu. Il leur fut donné sept trompettes. Alors vint se tenir contre l'autel de l'encens un autre messager qui portait un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup d'encens à offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or devant le trône. Et par la main du messager monta devant Dieu la fumée de l'encens avec les prières des saints. Puis le messager prit l'encensoir, il le remplit des braises de l'autel de l'encens et jeta le feu sur la terre. Ce furent des tonnerres et des voix et des éclairs et un tremblement de terre.
Apocalypse, Saint Jean.
Alexander.
L'enfant essuie la sueur qui perle sur son front, soulève le sceau avec peine et se dirige vers son arbre. Il s'arrête, rapproche le sceau du tronc et verse l'eau. La terre desséchée l'absorbe avec avidité. L'enfant reprend le sceau et se met à marcher dans la direction de sa maison qui n'est plus là. Il ne savait pas combien de temps encore il lui faudrait arroser cette souche, mais il était sûr qu'il ne laisserait pas passer un jour sans le faire. Qu'il continuerait à apporter de l'eau jusqu'à ce que l'arbre fleurisse. Son père le lui avait bien dit, l'arbre allait fleurir.
Et son fils retrouva alors la parole. Au commencement était le Verbe. Pourquoi, papa ?
C'était l'atelier de création radiophonique.
Andrei Tarkovski, ou le son de la terre.
Par Charles de Brandt et Gilles Mardi-Rossian. Texte tiré des écrits d'Andrei Tarkovski, lu par Emma Morin, Frédéric Bruyat, Guillaume Cantillon-Tramont et Martial Leminou.
Traduction, Luc Aubry.
Merci à Joël Joanneau et Michel Bonpoil pour les extraits du Visa Tarkovski, enregistrés par Patrick Marguerite.
Documentation, Institut international Andrei Tarkovski.
Les interviews d'Andrei Tarkovski nous ont aimablement été prêtées par Laurence Cosset.
Ich bin so verwundert. Wer für dir, Papa?
Le commencement était le Verbe. Pourquoi, papa ?
Prise de son.
Claire Levasseur et Fabien Capel.
Mixage.
Claude Niort.
Réalisation.
Gilles Mardi-Rossian.
Cette émission proposée par Philippe Langlois et Franck Smith a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 décembre 2002. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.